Oui, c'est bon, voilà. Voilà, alors on n'est pas nombreux, on pourrait même faire un peu d'interactivité si vous voulez bien. J'aimerais vous poser quelques questions et je vais utiliser un texte qui a été sujet à polémique, mais surtout un texte où je pourrais vous poser des questions sur ce que vous savez déjà ou ce que vous avez entendu. Il s'agit d'un personnage, ou de deux personnages, Samson et Gédéon, qui sont dans le même livre de juges, des juges. Et donc, je vais aborder cette étude plutôt comme une étude biblique que comme un message proprement dit, et vous allez en tirer des conclusions à partir de tout ce qu'on va apprendre. Donc déjà, j'aimerais vous poser la question, qui c'est qui sait qui était Samson ? C'est qui ?
Un des juges qui avait les cheveux longs et il avait sa force.
Donc très fort, avec des cheveux longs. Ok, bon, c'est une définition comme une autre. Qui sait qui sait encore ? Qu'est-ce que ça lui rappelle, Samson ? Comme ça, comme flash. Même dans la culture générale, hein, puisque finalement, Samson, aujourd'hui, il est même... Ça a un sens en français, oui.
Samson, il avait des longs cheveux.
Des longs cheveux, oui.
Qu'il fallait pas les couper.
Qu'il fallait pas couper. Oui. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi il fallait pas les couper ?
Un nazir.
Alors on va voir ce que c'est, hein, parce que justement, dans ce texte où il y a beaucoup de choses qui ont été utilisé dans la société. Finalement, pour comprendre ce texte, si vous le lisez simplement en prenant juge 13 jusqu'à juge 16, vous allez être plus avec plus de questions que de réponses. Donc on a besoin de l'éclaircir. Alors la méthode qu'on fait quand on aborde un nouveau, soit un personnage biblique, j'aimerais qu'on repose toutes les questions qu'il faut se poser. D'abord, ça se situe dans quel livre ? Donc dans le livre des juges. Alors, sachez que les juges, ce n'étaient pas vraiment des juges au sens comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui étaient à la tête d'un tribunal et qui n'avaient que cette mission de juger les gens pour les délits. En réalité, le peuple d'Israël, à cette époque-là, c'était juste après la conquête de Canaan et au début du livre des juges, Josué est encore vivant. Donc il n'y avait pas vraiment, c'était une forme de confédération de tribus qui étaient chacune maîtresse chez elle. Et cette autorité, on va dire, du juge, c'était juste un terme qui était utilisé dans d'autres peuples aux alentours. Les Phéniciens avaient aussi des juges à cette époque-là. C'était en quelque sorte une sorte d'arbitre pour la confédération, un petit peu comme on a aujourd'hui un responsable de la Commission européenne, qui n'est pas vraiment le chef d'État de l'Europe, qui est plutôt une sorte d'arbitre qui, pour certaines choses, pas dans tout. Et là, en particulier dans tout ce qui était guerre contre les voisins, etc., souvent le juge était quelqu'un qui les sortait de certaines situations ou qui avait donc certaines qualités reconnues par les autres tribus. Deuxième chose, pour situer le décor, hein, je plante le décor pour que vous compreniez l'histoire. Donc ça se passait donc juste après cette conquête. Et c'était une période où, vous rappelez, quand Josué a traversé le Jourdain et qu'ils ont commencé à envahir le pays et à lutter pour sortir tous ces peuples, pour les anéantir souvent, Josué avait insisté pour que tout le monde soit uni et qu'on fasse ce travail ensemble. Et ensuite, ils ont décidé par tirage au sort quelle serait la place de chaque tribu, quels seraient les territoires de chaque tribu. Et quand on voit les histoires qui ont pris de la place dans Juges, il y a celle de Samson qui prend 3 chapitres, on peut donc se poser en tant que chrétien la question, si on lui consacre 3 chapitres, c'est qu'il y a une certaine importance. Parce que, comme il est dit dans le Nouveau Testament, si on avait tout raconté, tout ce qui s'était passé, la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres que ça ferait. Donc, on a bien sélectionné des choses. Il y a dedans aussi une autre histoire, un autre personnage que je cite là, c'est Gédéon. Gédéon était un personnage qui, lui, était curieusement, à l'inverse de Samson, autant Samson était connu pour sa force, Gédéon était connu pour sa faiblesse. Pour vraiment être quelqu'un qui dit, oula, il se met à l'abri, il se planque. Ils avaient également des ennemis différents. Les Madianites et les Philistins n'agissaient pas de la même façon. Donc un autre décor qu'il faut planter, que vous n'aurez pas, que vous ne trouverez pas facilement dans la parole, mais ça prouve qu'on peut utiliser des fois, moi j'ai des livres sur l'histoire du peuple hébreu, fait par des historiens et de la région. Les Philistins étaient un peuple d'origine indo-européenne, c'est-à-dire pas du tout des Sémites, et ils ont occupé le bord de la mer là, jusqu'au moment, disons, ils ont surtout débordé vers l'Égypte, et à un moment donné, un des pharaons a mis un peu bon ordre, et il a vraiment fermé la frontière, et comme ils étaient plus nombreux que les Hébreux, et surtout qu'ils étaient bien organisés, et qu'ils avaient plus d'hommes que de femmes, ils ont souvent cherché à épouser des femmes israélites. Et ce qu'ils faisaient, ils faisaient une domination par la douceur. Curieux. Alors que les Madianites, avec Gédéon, étaient plutôt des brutes, qui attendaient que la récolte soit engrangée pour venir faire des razzias, piquer tout ce qu'ils avaient à manger, évidemment, et ils les laissaient juste, on va dire, survivre. Et donc, dans les deux cas, on a quand même une sorte de fausse paix, qui n'est pas la même. Avec les Philistins, finalement, on va s'apercevoir que les Israélites souhaitait que cette paix demeure. Et là, je ne veux pas aller tout de suite à la conclusion de tout ce que je vais dire, puisqu'on va le faire en 2 fois, parce que ça serait trop long. Mais c'est pour vous expliquer comment on peut rentrer dans des textes et essayer de comprendre, de chercher à comprendre pourquoi Dieu a voulu mettre ce passage et où il se situe. Donc il se situe dans un moment où Israël était très mal, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue spirituel. Ils étaient opprimés d'une façon ou d'une autre. Avec les Philistins, ils ont fait, on va dire, des compromis. Ils disaient, bon, ben, finalement, les Philistins sont plus nombreux que nous, ils nous dominent, mais bon, on est dans la paix, quoi. Par contre, il se passait des choses abominables, mais à aucun moment, ils ont crié à Dieu pour que Dieu, comme ils l'ont fait dans d'autres moments, en disant, Seigneur, on n'en peut plus, viens à notre secours. À aucun moment, ils se sont retrouvés dans cette position. Donc il a fallu que Dieu prenne des initiatives. Avec Gédéon, qu'on étudiera plus tard, c'est un peu différent. Ils étaient même tombés sous un certain nombre d'idolâtries. C'est pour ça que Gédéon a dû couper le poteau d'Achéra, c'est-à-dire c'était une sorte de totem quoi, qui était mis au centre du village. Et puis, ce qu'il y a aussi de curieux dans les deux histoires de ces deux personnages, c'est que aussi bien Gédéon que Samson sont des personnages qui ont eu une histoire qui est controversée. Aujourd'hui, les exégètes, alors j'utilise un terme qui est un peu compliqué, en fait un exégète c'est quelqu'un qui va faire de l'exégèse, et l'exégèse, c'est d'étudier les textes dans leur origine, dans leur forme, dans la langue, dans le contexte, dans la structure, etc. Et donc, il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur Samson et sur Gédéon. Maintenant, vous avez parfaitement le droit de vous dire, mais finalement, à quoi va me servir d'étudier ce personnage quel est le rapport avec aujourd'hui et quel est le rapport avec le Nouveau Testament. Alors, la première chose, c'est de voir si Gédéon et Samson, et là, je vais parler de Samson maintenant uniquement, est-ce que Samson est cité dans le Nouveau Testament ? Est-ce que vous le savez ? Si. Il est cité une fois, au moins une fois, dans Hébreux 12, je crois, non, c'est Hébreux 11, Hébreux 11, les versets 32 à 35. Et qu'est-ce qu'il est cité dans quel... C'est Paul donc, qui écrit l'Épître aux Hébreux. Il est cité dans les héros de la foi. Waouh. Donc, on se dit déjà, le rapport, c'est un homme de foi. Deuxième chose, c'est sachez que depuis le 19e siècle, on l'a utilisé dans toutes les formes d'art, l'histoire de Samson, surtout dans le passage de Samson et Delila, ou Dalila, comme on dit des fois, dans des films, dans des opéras, dans des musiques, avec des compositeurs célèbres, dans des films récents, disons récents, non, peut-être pas, mais disons dans les années 50. Et donc, c'est une histoire qui a été rentrée dans la fiction. Dans une fiction. Pourquoi je dis fiction ? Parce que ça n'a rien d'historique. L'histoire telle qu'elle est relatée, elle prend juste un tout petit moment et elle va le... Parce que c'est vrai que l'histoire de Samson, elle est un peu délirante, quoi. Elle est franchement délirante. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ce délire-là ? Est-ce qu'il ne faut pas lire en dessous ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Parce que souvent, on déforme la parole. Vous savez, c'est comme quand on lit certains textes vers Noël, où on se dit, mais est-ce que ça a vraiment été écrit dans la Bible ? Et quand on regarde, par exemple, de près, ben, ça n'a pas été écrit exactement comme ça, donc on a toujours un peu dévié. Et pourquoi je dirais que c'est important de vous en parler ? Et c'est aussi un contexte qui est lié avec le contexte d'aujourd'hui. On pourrait se dire, mais dans le contexte où ils étaient à l'époque, c'est-à-dire un peuple qui faisait pression sur eux, qui les repoussait dans leurs limites, mais en même temps qui les laissait vivre, qui était dans une domination douce. Est-ce que ça peut nous interpeller par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la société ? Alors beaucoup de commentateurs disent qu'effectivement, c'est un texte qui est très important pour comprendre quel est notre rôle aujourd'hui. Et on va se dire, oui, mais attends, stop. Nous, on ne va pas faire la guerre aux Philistins ou même à nos ennemis. Il est écrit dans la parole, et ça, vous connaissez bien ce texte, c'est le texte de Éphésiens. Dans Éphésiens 6, 12, il est dit « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » Donc, on a effectivement une mission différente. Ce n'est pas contre la chair et le sang, comme il est dit dans les textes plus anciens, mais vraiment contre des puissances spirituelles qu'on doit lutter. Maintenant, est-ce qu'on doit lutter ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et là, je vous dirais que oui, il y a quelque chose à faire, parce que dans la mission que nous avons reçue, il ne faudrait pas l'oublier, cette mission. Vous savez, c'est dans Matthieu 28, dans Matthieu 28, au verset 20, ou même avant, Jésus dit avant de partir, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on a bien reçu une mission. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, bon, et c'est là que je vais peut-être me démarquer, c'est qu'il y a pas mal de degrés dans, je dirais, dans l'engagement qu'on a. Dans notre engagement, le degré minimal, c'est de dire, je suis délivré, je suis disciple de Jésus, je vais au pied de la fusée qui part pour le ciel et j'attends que la fusée parte. Et à l'inverse, alors il y a plusieurs degrés entre celui-là et le degré le plus, on va dire, à mon avis, le plus adéquat avec la parole. Il y a tous les degrés où on dit, bon, ben, finalement, on va changer les choses autour de nous, mais ne rêvons pas, faisons que l'Église, que tout se passe bien dans l'Église, mais à l'extérieur, on ne peut pas grand-chose, le monde, il est trop fort pour nous. Et puis il y a ceux qui, et je pense comme ça, disent que de toute façon, rien n'est inatteignable pour Dieu. Et qu'on peut conquérir, et c'est ce que nous demande de faire le Seigneur, on peut conquérir tous les peuples. Je n'ai pas dit toutes les personnes, parce qu'il y en a qui choisiront de ne pas être conquises. Mais on a effectivement ce travail, et qu'il n'y a aucun terrain qui est inaccessible. Et enfin, avant de commencer l'histoire réelle de vous parler du texte lui-même, pour remettre en perspective, vous allez dire, mais pourquoi je vous parle aujourd'hui de Samson ? Figurez-vous qu'en 2010, donc ça fait déjà 8 ans, quand Richard Hayes, vous savez, ce prophète du Mexique, là, un Américain qui est au Mexique, était venu, il a prié pour chacun d'entre nous. Et puis à moi, il m'a dit à un moment donné, bon voilà que, je vous résume, il m'a dit qu'en gros, il y a deux personnages qui sont un petit peu auxquels je pourrais m'identifier, quoi. C'est Néhémie et Samson. Mais je préfère vous dire tout de suite que, vu les connaissances que j'avais de Samson à l'époque, j'ai pris ça très mal. Pour moi, Samson, c'était simple. C'était un type qui courait les prostituées, qui avait une force, oui, d'accord. Alors, je voyais pas, j'ai pas les cheveux longs non plus, je suis pas nazir. Je me disais, mais ça veut dire quoi, ça? Ça peut être que négatif, quoi. Voilà, donc j'ai évidemment fait des recherches sur Samson, et j'ai découvert quand même des choses extraordinaires. Et d'abord que Paul reconnaissait, il faisait partie des personnages de foi au même titre que David, que d'autres, Gédéon bien sûr, etc. Voilà. Donc rentrons maintenant dans cette histoire. Quand vous avez compris le contexte, donc, alors un autre peut-être qui a précisé, c'est que, curieusement, et la Bible est toujours pleine de curiosité, Samson est de la tribu de Dan et Gédéon de la tribu de Benjamin. Mais quand on parle de tout le territoire d'Israël, on dit de Dan à Benjamin parce que Dan est à l'extrême nord et Benjamin à l'extrême sud avec Juda. Et en même temps, il y a une curieuse histoire, c'est que c'est une toute petite tribu, Dan, mais vraiment toute petite, puisqu'on pense à un moment donné historiquement qu'il n'était pas plus de 800 hommes en armes, possible de mobiliser que 800 hommes, et qu'ils avaient un territoire qu'ils n'avaient pas réussi à conquérir. Au moment du début de Juges, vous voyez comment il y a un tirage au sort avec Josué, et donc Dan a hérité d'une petite portion qui est, si vous voulez, à l'est de Jaffa. Donc à peu près à la hauteur de Tel Aviv, vous voyez, donc entre Jérusalem et Tel Aviv, un petit territoire qu'ils n'avaient pas réussi à conquérir. Et donc ils se retrouvaient avec les peuples locaux, coincés un peu en haut des collines parce qu'ils n'avaient pas dominé sur ce qu'on leur avait donné. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Ils ont décidé d'aller conquérir un coin tranquille dans le nord, dans la partie, si vous voulez, qui est à la limite de la Samarie, plus haut. Et là, ils ont fait, avec des méthodes pas très orthodoxes, ils ont conquéri là aussi un petit territoire, et ils ont appelé cette ville d'ailleurs Dan, qui s'appelait avant d'un autre nom. Et il y a quand même un petit reste de cette tribu qui est restée au centre d'Israël. Voilà, donc c'est vraiment une histoire assez bizarre. Et Dieu choisit aussi, de façon assez symbolique, au chapitre 13, vous allez voir que l'ange de l'Éternel se présente à une femme et lui dit qu'elle était stérile et lui dit qu'elle va enfanter et que il faudra qu'elle consacre ce jeune enfant, ce garçon, à Dieu. Et c'est là qu'on en vient à la définition du nazir. En fait, un naziréen, si vous préférez, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu pendant un certain temps. Et pour cela, il doit manger ni boire aucun fruit de la vigne, ne manger rien d'impur, ne pas toucher de mort, et se laisser pousser les cheveux jusqu'à la fin de son vœu, enfin de son choix de se consacrer. En général, c'était toujours pendant une période donnée. Et là, il annonce à cette femme qu'elle va être consacrée, que ce fils il va être consacré de sa naissance à sa mort. Et que donc, elle lui prescrit que déjà, elle doit prendre toutes les prescriptions pour le naziréat, c'est-à-dire qu'elle doit ne pas toucher quoi que ce soit qui a trait avec la vigne, aussi bien le... Mais tout, hein, c'est-à-dire pas seulement le produit de la vigne, mais tout ce qui concerne la vigne, et qu'elle doit ne rien toucher d'impur, et que quand il naîtra, donc il devra en laissera pousser chez ses cheveux. Bon, voilà, décor planté. À partir du chapitre 13, on ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. On sait qu'il est justement né dans une de ces villes, à 20 km à l'ouest de Jérusalem, dans l'ancien territoire, et que c'est une période justement très difficile où il y a vraiment, pour les Israélites, ils sont assujettis carrément aux Philistins. Ils vont même se retourner contre Samson à un moment donné, parce qu'on sent que lui a reçu une sorte de mission, il y a la main de Dieu qui est sur lui. La main de Dieu est vraiment sur lui. Et la première fois où on raconte quelque chose sur lui, c'est quand, à un moment donné, il dit à ses parents, voilà, il a rencontré une femme philistine, donc du peuple d'à côté, et elle lui plaît, il a envie de l'épouser. Mais en réalité, il est déjà conscient que c'est pour irriter les Philistins qu'il va faire ça, et non pas pour... parce qu'il a envie de l'épouser. Et c'est d'ailleurs, ça va mal se passer, parce que pendant les 7 jours où ils sont... Vous savez, le mariage durait 7 jours à l'époque, et on était obligé d'avoir un... Comment dire, le mari avait avec lui une sorte de compagnon. Et il y a beaucoup de Philistins qui étaient venus à ce mariage. Et lui, il va poser à un moment donné... une énigme. Et avant de vous dire ce qui va se passer après, je vais vous dire que ce qui s'est passé, il y a eu un peu avant un certain nombre d'exploits qu'a fait Samson. On va les lire tout de suite dans la parole. Donc tu peux passer. Alors c'est moi qui vais le faire. La grande question qui est posée dans cette histoire, la première question, c'est est-ce qu'on doit se laisser assujettir ou vouloir la délivrance alors qu'on est dans la paix, mais dans une fausse paix? Et aujourd'hui, posons-nous chaque fois la question, si nous sommes dans cette situation de fausse paix, Est-ce qu'il n'y a pas des situations où nous acceptons tout simplement un joug spirituel? Et qu'est-ce que nous faisons pour ça?
Donc, je vous lis le début du chapitre 14.
Le début du chapitre 14 qui raconte les premiers exploits de Samson. Un jour, Samson va à Timna, et là, il remarque une jeune fille philistine. En revenant, il en parle à son père et à sa mère. Il leur dit, à Timna, j'ai remarqué une jeune fille philistine. Demandez-la en mariage pour moi. Ses parents lui disent, est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple? Pourquoi veux-tu prendre une femme de chez les Philistins qui ne sont pas circoncis? Mais Samson dit à son père, c'est cette jeune fille qui me plaît, demande-la en mariage pour moi. Les parents de Samson ne le savent pas, mais c'est le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. Donc c'est une période où Samson était effectivement sous l'influence du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Les parents de Samson ne le savent pas donc, et le Seigneur cherche une occasion pour que la guerre éclate avec les Philistins. En effet, à cette époque-là, les Philistins dominent les Israélites. Samson et ses parents vont à Timna. Quand ils arrivent près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Certainement que ses parents étaient un peu devant. En tout cas, ils n'ont pas vu la scène. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson et avec ses seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un cabri. Un cabri qu'on vient de tuer, vous voyez ce que je veux dire? On le déchire, bon, il faut déjà être fort, mais bon. Lui, carrément, c'est le lion qui l'a déchiré. Mais il ne raconte pas à ses parents ce qu'il vient de faire. Il continue son chemin et va parler avec la jeune fille philistine. Elle lui plaît beaucoup. Quelques jours plus tard, il revient à Timna afin de la prendre pour femme. Il fait un détour pour voir le lion mort. Donc, vous voyez la scène. Parce que Timna, ce n'est pas tellement loin, hein, parce qu'il y avait même des vallées où le haut de la vallée était israélite et le bas de la vallée était philistin. Dans le corps de l'animal, il trouve un essaim d'abeilles et du miel. Vous voyez la scène, hein ? Il prend le miel dans ses mains et le mange en continuant son chemin. Ensuite, quand il retrouve ses parents, il leur donne du miel à manger. Mais il ne leur dit pas qu'il l'a pris dans le corps d'un lion mort. On se dit, on est très loin de ce que je dois faire dans la vie. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je rencontre un lion? Est-ce qu'il va me donner ces forces-là? Donc on est dans ce que je disais au début, c'est-à-dire on est dans ce mélange entre force et faiblesse. Gédéon, d'un côté, un personnage de juge aussi de ce livre, très faible. Et là, c'est quelqu'un de très fort, qui avait une force dont on ne saura jamais, et personne, dans aucun commentaire. J'ai un livre qui est consacré complètement au livre de Juges, avec des commentaires faits pas dans le... C'est le cadre de la, comment dire, la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc c'est vraiment... Là, on voit des tas de commentaires de gens qui disent ça et son contraire. Et quand vous regardez dans les commentaires que vous avez des fois dans certaines Bibles, à propos de Samson... Pour moi, je résumerai ce commentaire en disant « Circuler, il n'y a rien à voir. » Franchement. Puisqu'on va vous dire « Voilà, Samson, c'est un type bon, qui faisait tout et son contraire, qui aimait beaucoup les femmes. » Enfin, on va vous dire deux, trois choses et à la fin, vous direz « Bon, c'est pas la peine que je m'intéresse à cette histoire. » Sauf peut-être pour faire un film ou faire un joli pitch, parce que c'est quand même sympa. Vous verrez, il y a des choses dedans où on a envie de rire, parce que c'est y a un peu des choses qui font rire. Et donc, se passe le mariage. Le père de Samson va chez la femme philistine. Là, Samson offre un grand repas de mariage, comme les jeunes gens ont l'habitude de le faire. Quand les Philistins le voient, ils choisissent 30 jeunes gens pour rester avec lui. Samson leur dit, je vais vous présenter une devinette. Je vous donnerai 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements en récompense, si vous trouvez la devinette. Mais pour les avoir, il faut comprendre la devinette et me l'expliquer avant le 7e jour de repas de mariage. Donc c'est vraiment, là ils cherchent la provoque. Hein. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est vous qui me donnerez 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. Les Philistins disent à Samson, « Présente ta devinette, nous écoutons. » Il leur dit, « Ce qui se mange est sorti de celui qui mange, ce qui est doux est sorti de celui qui est fort. » Comme vous connaissez l'histoire, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ? Au bout de 3 jours, les Philistins n'ont pas encore trouvé la réponse. Le 7e jour, ils disent à la femme de Samson, « Parle gentiment à ton mari pour qu'il nous explique la devinette. » Sinon, nous te brûlerons avec toute ta famille. Bon, ça devient un peu moins sympa là. Hein. Est-ce que c'est pour prendre toutes nos affaires que vous nous avez invités ? C'est sûr que s'ils ne trouvent pas, ils sont obligés de donner 30 vêtements, plus enfin, de fête. C'est quand même pas mal, quoi. Il y a quand même un rapport avec les vêtements avec le fait qu'il avait 30 jeunes gens pour rester avec lui. Donc il repartait pratiquement nu, quoi. Plus, la femme de Samson se met à pleurer tout contre lui en disant « Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu présentes une devinette à mes frères et tu ne me l'as pas expliqué. » Samson répond « Je ne l'ai expliqué à personne, ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce que je vais te l'expliquer à toi ?» La femme de Samson pleure tout contre lui pendant les 7 jours du repas de mariage. Le 7e jour, Samson lui explique la devinette parce qu'elle le fatigue de ses larmes. Ensuite, elle donne la réponse à ses frères philistins, donc elle le trahit. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, les hommes de la ville viennent dire à Samson, « Qu'est-ce qui est plus doux que le miel ? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion ?» Il leur répond, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma vache, ce qui veut dire, donc c'est une expression, ça veut dire qu'ils ont utilisé la femme de Samson pour trouver la réponse à la devinette, quoi. C'était une expression de l'époque, bon, c'est un peu une drôle d'expression, mais enfin bon. Je répète, si vous n'aviez pas labouré avec ma vache, vous n'auriez pas trouvé la réponse. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson, qui va à Ascalon, il tue 30 hommes, prend leurs vêtements et les donne comme habits de fête à ceux qui ont trouvé la réponse de la devinette. Fou de colère, il retourne chez son père. On donne sa femme à celui des jeunes gens que Samson avait pour garçon d'honneur. Donc le mariage n'a pas pu avoir lieu. Mais ce n'est pas lui qui a trahi. C'est sa femme qui a trahi et ensuite, c'est le père de sa femme qui n'a pas trahi, on va voir après. Le but, c'était quoi ? C'était de montrer que, en réalité, sous leur douceur, les Philistins étaient en fait des gens très méchants, quoi. Peu de temps après, au moment de la récolte du blé, Samson va rendre visite à sa femme avec un cabri. Il dit « Je vais entrer dans la chambre de ma femme. » Mais son beau-père refuse et il dit « Je croyais que tu ne l'aimais pas, que tu ne l'aimais plus, alors je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Sa petite sœur est plus jolie qu'elle, prends-la donc à sa place. » Samson répond « Cette fois-ci, si je fais du mal aux Philistins, je ne serai pas coupable. » Puis il part, il prend 300 renards. Là aussi, c'est une histoire vraiment incroyable. Il les attache deux par deux à leur queue et il place une torche entre deux queues. Puis il allume les torches et il lâche les renards dans les champs de blé des Philistins. Ainsi, il met le feu aux gerbes, aux épis non coupés et même aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandent « Qui a fait cela ?» On leur répond « C'est Samson. Il a fait cela parce que son beau-père, un habitant de Timna, lui a repris sa femme et qu'il l'a donnée au garçon d'honneur de Samson. » Alors les Philistins vont brûler la femme de son père. La femme et son père. Donc les Philistins sont très cruels là, parce que finalement, c'est la femme qui leur avait donné la réponse. Et le père n'a fait que... Bon, c'était pas très sympa ce qu'il a fait, mais enfin bref. Samson leur dit, puisque vous agissez de cette façon, je m'arrêterai seulement quand je me serai vengé de vous. Il les attaque durement et c'est pour les Philistins une défaite totale. Ensuite, il part habiter dans un trou du rocher d'Étam.
Donc, dans cette étape de notre histoire, on voit que Dieu, l'Esprit de Dieu conduit Samson de bout en bout, et que même, et ça c'est commun dans la parole, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait la vengeance, en fait, comme la vengeance des hommes, celle qui réclamait, l'honneur qu'ils avaient à l'époque sous cette forme-là, pour accomplir un certain nombre de choses qu'il voulait que les hommes accomplissent. Et je voudrais revenir sur le fait que, avant qu'on voit la suite, que donc ce qu'on a vu depuis le chapitre 13, là, il faut savoir que les Israélites faisaient ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il les livre donc entre les mains des Philistins pendant 40 ans. C'est ce qui est dit au verset 1 du chapitre 13. Mais quoi qu'il soit, donc dans chapitre 13, verset 1, les Israélites recommencèrent à faire le mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Et au bout de ces 40 ans, en fait, ils n'ont pas crié à lui pour demander quoi que ce soit. C'est vraiment un endormissement, une sorte de fatalisme. Ils préféraient avoir un peu la paix tout en étant esclaves, soumis. Ça, c'était pour parler à leur conscience. Après un laps de temps plus ou moins long, d'habitude, Israël reconnaissait ses fautes et criait à l'Éternel. Dans ses grandes compassions, Dieu, en peine à cause de leur misère, leur donne un juge qui les délivre. Donc là, ils n'y ont pas fait appel. Et pourtant, il a quand même suscité ce juge. Et voilà pourquoi il a été suscité. Parce qu'ils ont une complète indifférence à l'égard de leur servitude. Et ça, c'est la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'effectivement, on peut très bien se satisfaire d'une situation de ce genre, c'est une situation de compromis. Et que si on ne lit pas la parole régulièrement, si on n'est pas en contact dans l'intimité avec Dieu, on finit par tomber dans ce travers, celui de dire, bon, on supporte, on va attendre que la fusée parte. En fait, on atteint la fin de notre vie, quoi. Pour dire, comme me disait une fois un enseignant il y a déjà longtemps, il y en a qui sont en mariage comme en se disant, bon, j'ai plus qu'à attendre 25, 30 ans, puis je serai délivré. Ils ne deviennent pas infidèles, mais par contre, ils ne pensent pas que les choses pourraient changer. Ils restent dans une situation insatisfaisante parce qu'ils ne pensent pas que Dieu peut les délivrer. Que Dieu peut faire que les choses changent autour d'eux, que les gens changent. Ce n'est pas nous qui pouvons les changer, mais Dieu peut les changer. Et par sa faute, on voit que Samson fait à ses dépens l'expérience que le monde est toujours décevant pour un croyant. On peut travailler pour lui, dépenser tout son temps à son service, chercher à y prospérer, on ne trouvera qu'ingratitude et désillusion. Et maintenant, il se venge, parce que la chair seule semble en jeu. On ne voit pas que l'Esprit de Dieu le saisisse. Trop souvent, des motifs d'inimitié personnelle plus ou moins cachés nous font agir. Or, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, que seul connaît les cœurs brisés. Samson descend ensuite habiter dans une caverne au rocher d'Étam. Ce sera le moment le plus positif de sa carrière. Maintenant, on voit que les Philistins veulent s'emparer de lui. Ils le cherchent. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils montent contre Israël. Donc là, ils ont dit, c'est plus la peine de faire de la douceur. Il n'y a qu'une chose, il faut aller les mettre au pied du mur. Il faut exiger d'eux qu'ils aillent trouver ce Samson pour nous le livrer.
Alors les Philistins viennent installer leur camp dans le territoire de Juda et ils placent leurs soldats jusqu'à un endroit appelé Lehi. Les hommes de Juda demandent « Pourquoi venez-vous nous attaquer ?» Ils répondent « C'est pour attraper Samson et lui faire ce qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda descendent dans le trou du rocher d'Étam. Ils disent à Samson « Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Tu ne vois donc pas le tort que tu nous fais ?» Samson répond « Je les traite comme ils m'ont traité. » Il continue « Nous sommes venus ici pour t'attraper et te livrer aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondent « Non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer à eux, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils attachent Samson avec deux cordes neuves et ils le remontent du rocher. Quand il arrive à Lehi, les Philistins viennent à sa rencontre en poussant des cris de joie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ses propres frères ont envie de continuer à être bien avec les Philistins. Ils ne veulent pas mettre leur vie en jeu. Ils veulent qu'une chose, c'est être sûr qu'il ne les embêtera plus. Donc, attendons-nous aussi à être des fois solitaires quand nous voulons vraiment obéir à Dieu. Encore une fois, ce n'est pas en attaquant les personnes, mais le mot d'ordre de Jésus, c'est plus tuer vos ennemis, mais aimer vos ennemis. C'est donc en faisant des choses sans compromis avec la force que Dieu nous donne. C'est là le combat qu'on doit mener. Alors qu'est-ce qui se passe au moment où il arrive chez les Philistins avec, je rappelle, les mains liées. Les cordes qui s'attachent ses bras et ses mains deviennent comme du lin brûlé par le feu et elles tombent. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson, ce qui est dit. L'Esprit du Seigneur saisit Samson. Donc on a parlé beaucoup de sa force. Même si là, finalement, on s'aperçoit dans ces textes que sa force, on ne dit pas en permanence, voilà, c'est un homme hyper, hyper puissant. Il semble qu'il y ait un rapport direct entre le fait que Samson soit saisi par l'Esprit de Dieu et celui de sa force. Et le rapport qu'on a mis entre ses cheveux qui lui donneraient sa force et sa propre force, sa force incroyable, c'est aussi, on peut la mettre en doute en disant que c'est plutôt parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et alors qu'est-ce qu'il fait après, donc une fois que sa corde tombe? Ensuite, Samson trouve la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer. Il la ramasse et s'en sert pour tuer 1000 hommes. Puis il dit, avec une mâchoire d'âne, je les ai bien frappés, avec une mâchoire d'âne, 1000 hommes, j'ai tué. C'est clair que c'est un héros, comment dire, qu'on a du mal à s'identifier à cet héros. Hein. Donc n'allez pas en ville pour essayer de faire quelque chose avec une mâchoire d'âne. D'abord, vous ne trouverez pas d'âne qu'on vient de tuer. Moi, j'en connais, mais je ne peux pas vous donner l'adresse, parce qu'elle veut qu'il reste vivant. Franchement. Après cela, il jette la mâchoire loin de lui et on appelle cet endroit Ramat Lehi. Samson a une soif terrible. Alors il appelle le Seigneur au secours et dit « C'est toi qui m'as donné cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ceux qui ne sont pas circoncis ?» Dieu fend le rocher creux qui se trouve à Lehi et il en sort de l'eau. Il boit, ses forces reviennent et il reprend vie. C'est pourquoi on appelle cette source, source de Corée. Elle existe encore aujourd'hui. Et il est dit à ce moment-là, donc, puisque c'est le moment où il a été juge du peuple d'Israël pendant 20 ans à l'époque des Philistins. Donc pendant cette période, il a été choisi par le peuple quand même pour être leur juge. Mais leur juge, plutôt leur chef intermittent. Alors, il va encore faire quelque chose d'extraordinaire. Au chapitre 16, on voit qu'il y a la fin et le déclin, mais avant, il y a encore quelque chose d'extraordinaire, d'un peu qui nous paraît bizarre. Samson part pour Gaza, il rencontre une prostituée et entre chez elle. Les habitants de Gaza apprennent que Samson est là. Ils surveillent l'endroit et ils le guettent toute la nuit à la porte de la ville, mais ils ne font rien contre lui pendant la nuit. Ils se disent « Nous le tuerons quand il fera jour ». Mais Samson reste couché jusqu'à minuit seulement, Vers minuit, il se lève, il prend les deux bâtons de la porte de la ville, il les arrache avec les deux montants et la serrure en bois, il les met sur ses épaules et il les transporte au sommet de la montagne, de la colline qui se trouve en face de la ville d'Épron. C'est à 60 km de là. Donc il a transporté deux grandes portes. Je pense que ce n'était pas des petites portes hein, quand même. Donc il était vraiment fort. Hein. Il les a emmenés à 60 km de là, on ne sait pas pourquoi. Et après ça, on voit l'épilogue un peu. Après ça, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Elle habite la vallée de Sorek. Ce n'est pas une philistine. On pense que c'est plutôt, d'après les textes, ceux qui ont commenté les textes, que c'est plutôt une israélite, ou en tout cas pas une philistine. Elle habite la vallée de Sorek. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors nous pourrons l'attacher et nous rendre maître de lui. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Avec 1100 pièces d'argent, si chacun leur donne ça, elle pourrait vivre toute sa vie sans avoir de soucis à se faire. Donc c'est une grande tentation. Il va y avoir deux ou trois étapes dans ce chantage qu'elle va faire. Et peut-être qu'on peut juste voir les commentaires qui ont été faits là-dessus. C'est une histoire, un peu comme, vous savez, dans les tentations de Jésus. Vous avez plusieurs volets. Là, il y a trois volets, puisqu'il ne va céder à la fin qu'à force qu'elle le harcèle. Parce que l'histoire de Samson, avouez qu'elle est quand même particulièrement dramatique, parce que jusque-là, il a été vraiment exemplaire. Il y a de brillantes perspectives dans sa vie, mais très vite, son manque de vigilance va le conduire à céder aux tentations que l'ennemi sème sur son chemin. Donc voilà un homme très fort, mais qui a oublié que s'il ne dépendait pas de Dieu, l'ennemi est plus fort même qu'un homme très fort. Parce que si vous connaissiez autour de vous quelqu'un qui est capable de transporter des portes sur 60 km, ou qui est capable de défaire tous les liens qu'on lui met, même avec des cordes neuves, et aussi de tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne, franchement, ça serait un phénomène de foire, hein, vous êtes d'accord? Si on avait encore le droit d'exploiter ce genre de phénomène, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui iraient le voir. Et pourtant, cet homme va tomber sur son manque de vigilance. C'est la séduction du cœur, parce qu'il aimait vraiment, il est tombé amoureux de cette femme. Alors on pourrait dire, effectivement, c'est un homme qui est léger, il va voir une prostituée un peu avant. Là, il rencontre cette femme. À aucun moment il est dit que il est parlé de consommation de sa rencontre, c'est-à-dire du fait qu'ils ont été plus loin que d'avoir une liaison. Alors elle va utiliser plusieurs arguments que vous pouvez voir dans le chapitre 16. Et lui, finalement, il a le tort d'essayer au lieu de dire carrément non, il essaye de lui prouver que voilà, il gagne du temps. Et surtout, il est tellement sûr de sa force qu'il finit par croire que de toute façon, il ne peut rien lui arriver et il cède à la fin. Et il lui dit, voilà, si tu tisses les 7 tresses de ma tête sur la chaîne d'un métier à tisser, si tu les serres avec un peigne de tisserand, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. Donc ça, c'est l'avant-dernière. Ça ne marche pas. Mais par contre, après, Le chantage qu'elle lui fait lui dit « Tu me dis, je t'aime et tu n'as pas confiance en moi. Comment est-ce que possible ? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. » Dalila fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuie tellement qu'il est épuisé. Il lui fait connaître son secret en disant « Mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on ne me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe qui. » Alors elle fait dire au chef philistin de sortir de la pièce où ils étaient cachés et de le saisir, et effectivement, il n'a plus de force. Et il rajoute à ça une chose, c'est qu'il lui crève les yeux. Et curieusement, c'est avec ses yeux crevés qu'il voit le mieux. Il comprend que ce n'est pas sa force qui va le sauver, mais qu'il a vraiment été consacré à Dieu et qu'il avait vraiment une mission. Et à ce moment-là, il se repent finalement et demande juste à pouvoir pousser les 2 colonnes. Alors, ces 2 colonnes, c'est simple. À un moment donné, donc, il était utilisé pour tourner la meule. Quand on est aveugle, on peut le faire, ça. Il avait une grande force, peut-être pas celle qui lui restait, puisque ses cheveux avaient repoussé. Et il était esclave, quoi, finalement, chez les Philistins. Il y a une grande fête et il demande juste une faveur, c'est de pouvoir être... qu'on lui fasse toucher les 2 colonnes qui supportaient ce temple de Dagon. Et en poussant ces 2 colonnes, il demande, bien sûr, il demande à Dieu qu'il lui redonne cette force pour un instant. Il repousse ces 2 colonnes et tout tombe et vous avez plus de 3000 responsables philistins qui décèdent. Donc c'est une drôle d'histoire qui termine finalement de façon assez curieuse. Je rappelle aussi que dans le temple de Dagon, quand ils avaient amené l'arche, vous vous rappelez, quand ils avaient volé l'arche, la statue de Dagon était tombée. Et au bout d'un certain temps, les devins des Philistins avaient demandé à ce que l'arche soit rendue à Israël. Mais ça, c'était un autre moment. Donc effectivement, il se venge et il meurt. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire ? La première chose, c'est qu'il faut se méfier de tout ce genre de tentation qu'on peut avoir dans la situation où on est. Si par exemple, là, on avait un homme qui était fort, mais qui a trop cru en lui-même. Il a cru que Dieu le suivrait, même quand il allait faire des choses qui n'étaient pas justes. C'est sa pensée au moment où il cède et qu'il répond... Il a préféré choisir à ce moment-là d'aimer cette femme qui était traîtresse. Il n'a pas vu qu'elle le trahissait. Il ne l'a pas vu. Cet aveuglement l'a conduit effectivement, non pas à rompre définitivement avec Dieu, parce qu'on peut se dire, mais comment ça se fait que Paul décide que cet homme fait partie des exemples de foi ? Ben c'est parce que même dans ces situations-là, des situations dramatiques, il avait encore un rapport avec Dieu. Et c'est jusqu'au dernier moment, il s'est remis de nouveau sous la grâce de Dieu. Donc le Seigneur l'a utilisé à un moment donné, mais il est sorti de cette grâce au moment où il a décidé que... voilà, parce qu'il est dit au passage, au moment où il lui dit... pourquoi il avait cette force, lui croyait ça. Mais dans le passage, il est juste dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Donc c'est surtout l'Esprit de Dieu qui lui donnait cette force. Donc vous voyez, vous avez une histoire complètement qui paraît complètement dingue, mais qui nous amène quand même à nous poser certaines questions sur un comportement. Quelles que soient nos forces intellectuelles, physique, même morale, sans Dieu, c'est ce que nous dit ce texte, sans Dieu, en fait, on peut être déjoué, parce que l'ennemi de nos âmes est plus fort que nous, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Il est plus fort que nous. Si ça, nous le négligeons et si nous devenons légers en disant « de toute façon, il ne peut rien m'arriver », et ça, je l'ai déjà entendu de frère Chrétien, « il ne peut rien m'arriver, je suis avec Dieu ». Si, il peut arriver quelque chose. Le monde est plein de pièges. Mais la mission qu'avait... Vous allez me dire, mais quelle est la mission alors vraiment qu'avait Samson? Ben, elle a été dit dès le début. Rappelez-vous dans Juges 13, ce qu'il dit à la maman. Quand l'ange lui discute avec elle, il lui dit « Tu ne peux pas avoir d'enfant, pourtant tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. » Il n'est pas dit qu'il les délivrera, il commencera à les délivrer. D'abord par cette colère qu'il provoque chez eux pour que le peuple se rende compte que ce n'était pas des biens de vivre avec eux, en tout cas sous leur joug, dans la soumission. Et là, je voudrais rappeler quelque chose qui nous guette au niveau spirituel. C'est dans notre société, en ce moment, il y a une grande tentation, c'est que la société, elle cherche aussi son bien-être. Et en particulier, il y a beaucoup de philosophies qui sont basées aujourd'hui sur le bien-être et sur le, comment dire, sur un certain nombre de choses qui peuvent nous amener à sortir complètement du plan de Dieu. Je ne vais pas m'étendre, mais il y aurait des tas de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire au nom du bien-être, on peut aller très loin. On peut aller dans des choses qui finalement, je me rappelle d'une proposition qui avait été faite à quelqu'un que je connais, d'aller... dans la région ici, suivent des séances de bien-être. Et quand on regardait leur programme, il y avait dedans du chamanisme. Écrit avec ce mot, chamanisme. C'est quoi le chamanisme? C'est à faire appel à des puissances de la terre, de l'eau, de tout ce qu'on veut. Des puissances spirituelles. Donc, si on n'est pas vigilant, on peut dire, mais il ne m'arrivera rien. Je peux utiliser ça comme ça, comme quelque chose qui ne fera pas de mal. Ben non. Le danger est plus subtil chez nous. On n'a pas à condamner forcément les gens, nos ennemis, mais juste à rester vigilant et à combattre les puissances qui sont derrière, les puissances occultes. Donc voilà la mission de ce Samson. Et on va remettre vraiment ce... Relisez-le chez vous, relisez ce texte. Pensez à tout ce contexte. Ce n'est pas juste une histoire qui s'est passée n'importe quand, n'importe comment. Ça s'est passé à un moment où le peuple d'Israël était vraiment loin de Dieu. Et dans l'histoire, ce qui va se passer, c'est que il y en aura encore d'autres luttes. Mais ça poussera Israël à s'unifier. Et ça aboutira à ce qu'effectivement... les tribus se resserrent et adoptent une identité commune. Aujourd'hui, quand vous pensez à Israël, vous ne pensez pas à une tribu donnée. Donc, ils auront besoin de ça. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment, je pense qu'il y a un grand mouvement pour l'unité des chrétiens. Non pas l'œcuménisme, mais l'unité. Parce que l'ennemi voudrait bien nous diviser pour pouvoir nous tailler en pièces séparément. Donc, je pense que nous aussi, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on est ici, c'est de dire... tous ceux qui sont sauvés forment l'Église, avec un grand E. Mais nous n'avons pas d'ennemis dans l'Église. Voilà. Donc pensez à étudier les textes de cette façon-là, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez trouver un certain nombre de ressources, ou demander autour de vous, mais il y a une façon de lire qui vous permettra peut-être d'en tirer des leçons et de dire, Seigneur, que tu voulais me dire. Ou alors, vous faites une chose plus radicale. Vous dites, tout ce qui... vous semble inutile, vous le découpez pour alléger votre Bible, pour transporter moins. Bien sûr, c'est une blague ce que je dis, mais c'est-à-dire que souvent, on agit comme ça. On se dit, je ne vais jamais aller dans ce livre, je ne vais pas aller, par exemple, dans le livre très rébarbatif, comme les Nombres ou le Lévitique. Et pourtant, les commentaires, si vous suivez Pain de ce jour et que vous lisez tous les jours un petit bout, vous voyez qu'il y a des choses très intéressantes que les commentateurs nous amènent à lire là-dedans. Voilà, donc partez avec la force que le Seigneur vous donne et pas avec celle de Samson. Ça sera mieux. Et on va prier un petit moment, si vous voulez bien, et on se séparera tout de suite. Seigneur, que ta parole nous éclaire aujourd'hui, que nous comprenions que tu as quelque chose à nous dire au travers de l'histoire de Samson. C'est un héros de la foi. Et comme Paul qui le connaissait au travers de ses lectures, que nous aussi nous penchions et que nous voyons que ce que tu as à nous dire au travers de cet homme. Et conduis-nous, Seigneur, dans le reste de la semaine. Veille sur nous, jour après jour. Tu as dit dans le psaume 138, au verset 8, « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. » Oui, le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Vous pouvez dire ça dans votre cœur, le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi.